ou à Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, Abdourahmane Diab pour vous présenter cette édition de 18h30 GMT. Nous sommes mardi 30 mai 2017 au sommaire. Les 82 filles de Chibok récemment libérées par Boko Haram retournent à l'école 3 ans après leur enlèvement. L'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade pressenti pour diriger une liste de l'opposition pour les législatives de juillet prochain à 91 ans. Au Soudan du Sud, 13 soldats devant la barre pour avoir tué un journaliste alors que le pape François renonce à se rendre dans ce pays ravagé par la guerre civile. Dans la partie magazine, retour sur la journée ville morte au sud-est du Nigeria, 50 ans après la déclaration d'indépendance du Biafra.
Je suis à Porakou, dans le centre-ville. L'ambiance, que beaucoup de magasins sont fermés, dans le respect de mots d'ordre, les gens sont d'accord avec cette revendication.
Ouais, ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. L'ONU publie un rapport sur 12 ans de crimes en Centrafrique commis par l'armée ou des groupes armés entre 2003 et 2015. Des membres des forces étrangères sont aussi cités dans le document publié aujourd'hui. Quelques 620 incidents sont détaillés dans ce rapport dont la publication coïncide avec l'installation très prochaine de la Cour pénale spéciale à Bangui pour instruire et juger les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre commis en Centrafrique depuis 2003. Les 82 lycéennes de Chibok libérées début mai des mains du groupe islamiste Boko Haram ont rejoint ce mardi un centre à Abuja où elles pourront poursuivre leur rééducation. Elles ne retourneront pas chez elles plus de 3 ans après leur enlèvement. Le point avec Solange Nyamulisa.
Accueillies par la ministre pour les affaires familiales Aïcha Alassane, les 82 jeunes filles ont rejoint 24 autres camarades déjà libérés au cours de l'année. Elles semblaient joyeuses de retrouver leur ancienne copine d'école. La ministre a expliqué qu'elles resteraient dans ces centres où elles recevront un soutien psychologique et une attention médicale jusqu'en septembre. À la rentrée scolaire prochaine, elles seront envoyées dans des écoles à travers le Nigeria et non pas à Chibok d'où elles sont originaires. Madame Alassane a assuré que si l'une d'elles veut retourner chez ses parents, le gouvernement va l'autoriser. Pour rappel, en avril 2014, 176 jeunes filles âgées de 12 à 17 ans avaient été enlevées à Chibok. 57 avaient réussi à s'échapper juste après. Cet enlèvement de masse avait provoqué une vague d'indignation mondiale, relayée sur Twitter sous le hashtag « Bring back our girls ».
Toujours au Nigeria, les mouvements indépendantistes biafrés ont appelé à une journée ville morte pour marquer le cinquantenaire de la déclaration de sécession du Biafra qui avait entraîné pendant trois ans, une terrible guerre civile. Magasins, écoles et bureaux sont restés fermés ce mardi dans le sud-est du pays. Les velléités indépendantistes persistent dans la région, à grande majorité Igbo, 50 ans après un conflit qui avait fait plus d'un million de morts. Nous y reviendrons dans la partie magazine de cette édition. Retour sur la scène politique pour Abdoulaye Wade. À 91 ans, l'ex-président sénégalais va diriger une liste d'opposition législative du 30 juillet prochain. Les opposants au président Macky Sall ont échoué à s'unir alors que la clôture des dépôts des listes est prévue ce soir. Le point avec Arzuma Compaoré.
La liste dirigée par l'ex-président Wade a été annoncée lundi soir après l'éclatement d'une coalition plus grande de 40 à 50 partis, mouvements et associations dont des partisans de Khalifa Sall, le maire de Dakar emprisonné depuis mars pour détournement présumé de fonds publics. Ce dernier conduira une liste distincte aux côtés de plusieurs responsables de l'opposition. Abdoulaye Wade sera investi comme tête de liste par une coalition d'une vingtaine de partis et associations, a annoncé ce regroupement dans un communiqué. Si l'opposition gagne, l'ex-président Wade pourrait obtenir une amnistie pour son fils Karim Wade, qui après plus de 3 ans de détention a été gracié en juin 2016 par le chef de l'État Macky Sall. Le scrutin du 30 juillet vise à renouveler l'Assemblée nationale, dont le nombre de sièges va passer de 150 à 165 après une révision constitutionnelle adoptée en mars 2016 et créant 15 députés pour représenter la diaspora sénégalaise.
Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a promis de retrouver les coupables du lynchage public d'un soldat confondu avec un voleur alors qu'il faisait son jogging dans une petite ville au sud du pays. Le capitaine Maxwell Mama a été tué par la foule hier, déclenchant de vives réactions à travers le pays. Le pape François, lui, renonce à son voyage qui était prévu cette année au Soudan du Sud. Le voyage n'aura pas lieu cette année, a déclaré le porte-parole du Vatican, Greg Burke, sans donner de motif ni dire si une date ultérieure était envisagée. 2 ans et demi après son indépendance, le Soudan du Sud a plongé dans 2013 dans une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts. Toujours au Soudan du Sud, le procès de 13 soldats accusés d'avoir violé des travailleuses humanitaires et tué un journaliste local en juillet 2016 s'est ouvert à Juba, mais a été ajourné au 6 juin prochain. Les détails avec Claire Morin-Jubourg.
C'est devant un tribunal militaire à Djouba que s'est ouvert le procès des 13 soldats accusés d'avoir tué un journaliste sud-soudanais et violé des femmes travaillant dans des ONG. Ces crimes présumés ont été commis le 11 juillet 2016 dans un hôtel non loin d'une base de l'ONU. La capitale était alors le théâtre de violents combats entre les partisans du président Salva Kiir et les forces loyales à l'ex-vice-président Riek Machar. Les accusés ont comparu vêtus de leur uniforme. 4 d'entre eux appartiennent à la division Tigre, la garde républicaine assignée à la sécurité du président. Aboubakar Mohamed Ramadan, le procureur militaire, a précisé que de nombreuses enquêtes ont été menées pour les crimes de meurtre, viol, pillage et détérioration de biens. Ce procès, qui devrait durer plusieurs jours, a été ajourné au 6 juin prochain.
Et puis, retour sur la scène politique, donc, je le disais, donc, le président ghanéen Nana Akufo-Addo a promis de retrouver les coupables du lynchage public d'un soldat confondu avec un voleur alors qu'il faisait son jogging dans une petite ville au sud du pays.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le directeur de la communication de la Maison-Blanche, Michael Dubkey, a annoncé sa démission dans un climat de tension au sein de l'équipe Trump sur fond des secousses liées à l'affaire russe. Dans un message adressé à ses proches, M. Dubkey explique avoir remis sa lettre de démission à Donald Trump le 18 mai dernier, mais proposé de rester en poste pendant la durée du premier voyage de M. Trump à l'étranger qui s'est achevé samedi soir. Il n'aura donc occupé ce poste que pendant 3 mois. La date de son départ effectif n'a pas été précisée. La Cour suprême des États-Unis a annoncé qu'elle allait examiner une nouvelle affaire de restriction du droit de vote, un gros sujet de contentieux entre républicains et démocrates. Ce dossier concerne l'Ohio, état où les républicains au pouvoir ont pris des mesures pour purger les listes électorales des personnes qui ne votent pas régulièrement. Des associations dénoncent qu'une telle politique vise à écarter les citoyens issus des minorités et des couches les plus pauvres de la société, et ces personnes ont souvent tendance à voter démocrate. Le ton est encore monté d'un cran aujourd'hui entre Angela Merkel et Donald Trump, qui a lancé une virulente charge contre l'Allemagne, la locomotive économique de l'Europe. Le point avec Anastasie Toudiech.
La situation est inédite. Jamais la tension n'a été aussi grande entre les États-Unis et l'Allemagne. Depuis la fin du sommet du G7 en Sicile, le président américain fait cavalier seul et la chancelière allemande ne mâche plus ses mots sur la politique du nouveau locataire de la Maison-Blanche. C'est sur Twitter que Donald Trump a riposté, affirmant que les USA ont un énorme déficit commercial avec l'Allemagne et que la quote-part allemande dans le budget de l'OTAN était insuffisante, ajoutant que « ça va changer ». Angela Merkel, connue pour choisir ses mots, a souligné que la relation transatlantique était d'une importance primordiale. Elle a ajouté que l'Europe devait prendre son destin en main, compte tenu de la situation actuelle.
Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov rejette les accusations contre Moscou concernant une ingérence présumée dans les processus électoraux des pays occidentaux et la persécution d'homosexuels en Tchétchénie. Il a fait cette déclaration au lendemain d'une rencontre entre les présidents russes et français. Nous n'avons rien à voir avec la majorité écrasante de ces accusations, a insisté Sergueï Lavrov. La Corée du Nord a confirmé qu'elle avait procédé avec succès à un tir de missile balistique. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a lui-même supervisé le tir selon les médias officiels nord-coréens, alors que de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité ont interdit à la Corée du Nord de procéder à de tels essais nucléaires. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
Le Gabon veut créer 30 000 emplois sur les deux ans à venir. Le projet s'insère dans son nouveau plan de relance économique élaboré de concert avec le FMI. Les domaines à viser, le high-tech, la construction, les mines, les hydrocarbures, l'agriculture, les forêts et le tourisme. Libreville table sur un taux de croissance de 6% à l'horizon 2019 et une réduction de la pauvreté pour 100 000 personnes économiquement faibles. Pour des observateurs, le gouvernement gabonais gagnerait avant tout à revoir la situation des employés du privé en congé technique à cause de la crise pétrolière. Abidjan envisage de lever dès le mois prochain 1 milliard de dollars sur le marché international des obligations. Première économie d'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire cherche ainsi à compenser le manque à gagner causé par la baisse des prix du cacao sur le marché mondial. Le pays emboîte le pas au Sénégal et à l'Égypte qui ont tous deux réussi leurs opérations sur le marché international des capitaux. Le Soudan a officiellement interdit l'importation de produits agricoles et de viande de l'Égypte. Le Conseil des ministres a également exhorté le secteur privé soudanais à importer des produits directement des pays d'origine en contournant l'Égypte voisine. Ces restrictions commerciales interviennent après les tensions frontalières qui ont surgi le mois dernier entre le Caire et Khartoum.
C'était donc la Minute Éco avec Jacques Aristide. À présent, la page des sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonsoir.
Oui, bonsoir Abdourahman. Bonsoir à tous.
On démarre par la Coupe du Monde des moins de 20 ans en Corée du Sud. La Zambie en piste.
À suivre ce mercredi, un choc périlleux en huitième de finale contre les jeunes Allemands. Les Zambiens avaient terminé premier du groupe C lors de la phase de poule avec 2 victoires. Et jeudi, l'autre représentant africain, le Sénégal, qui affrontera pour une place en quart de finale, le Mexique. Ce mardi, le pays organisateur, la Corée du Sud, a été sorti du tournoi devant son public par le Portugal qui s'impose 3-1.
Le Cameroun prépare les éliminatoires de la CAN 2019.
Oui, le sélectionneur du Cameroun, Hugo Boss, a communiqué la liste des 23 joueurs retenus pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2019 contre le Maroc, ainsi que la Coupe des Confédérations. On retrouve Vincent Aboubakar qui vient de remporter le championnat de Turquie, Michael Ngadeu qui lui est désormais champion en République tchèque, Benjamin Mukanjo relégué en Ligue 2 avec l'Orient fait aussi partie du voyage. En revanche, Hugo Brousse a écarté 7 joueurs de sa présélection et toujours absent de ce groupe, Henri Bédimo, Aurélien Chedjou, Eric Maxime Choupo-Moting et Clinton Jie. En Russie, on rappelle que le Cameroun, champion d'Afrique en titre, affrontera le Chili, l'Australie et l'Allemagne dans le groupe B.
Finale de la Ligue des Champions, la pression monte entre le Real et la Juventus.
Et cette déclaration, à mon avis, nous sommes meilleurs qu'eux. Cristiano Ronaldo a exhorté ses partenaires du Real Madrid à ne pas montrer trop d'humilité samedi contre la Juventus Turin en finale de la Ligue des Champions et a démontré qui est le meilleur. Ronaldo a souligné que le Real abordait cette finale en pleine forme après avoir décroché le titre de champion d'Espagne. Ronaldo a fait valoir que le club meringué pouvait entrer dans l'histoire en devenant la première équipe à conserver son titre européen dans l'ère moderne de la Ligue des Champions, c'est-à-dire depuis 1992.
Et enfin, tennis tournoi de Roland-Garros.
Oui, la Tunisienne Hans Jaber s'est qualifiée pour le deuxième tour de Roland-Garros en battant la Roumaine Anna Bogdan, le score 6-3, 6-4. Elle affrontera au prochain tour la Slovaque tête de série numéro 6, Dominika Sibulkova, qui a été expéditive lors de son premier tour face à l'Espagnole Lara Arruabarrena en remportant son match en 2-7 à 0, 6-2, 6-1.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. En Côte d'Ivoire, le gouvernement réaffirme la gratuité des soins pour le paludisme simple. Une mesure en vigueur depuis 2012, mais pas toujours appliquée dans plusieurs centres de santé. D'Abidjan, les explications de notre correspondant Georges Ibrahim Tunkara.
En Côte d'Ivoire, le paludisme reste l'une des principales causes de mortalité. En 2014, ce sont 4077 personnes qui en sont mortes et 3075 en 2016. La tendance est à la baisse selon le PNLP, le Programme National de Lutte contre le Paludisme. Pour le directeur coordonnateur du PNLP, il faut maintenir le cap, d'où la mesure portant gratuité des soins contre cette maladie. Docteur Antoine Tanoméa.
Pour permettre à toute la population, toutes les personnes vulnérables, tous ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir accès facilement au traitement, c'est pour ça que l'État de Côte d'Ivoire a rendu gratuit la prise en charge contre le paludisme. Parce que le paludisme est le premier motif de consultation en Côte d'Ivoire.
Si officiellement le traitement du paludisme simple est gratuit, la réalité est cependant tout autre dans de nombreux centres de santé. Plusieurs malades, comme ici dans la commune d'Abobo, affirment avoir payé les soins liés à cette maladie. Kadiatou Traoré est nourrice.
C'est mon petit bébé qui est malade là, dont on l'a amené ce matin. En fait, on n'a pas payé le ticket, mais on a donné l'ordonnance, on a acheté les seringue là, on a fait une injection. C'est mon mari même que je cherche, il a sorti l'ordonnance, ça donne, c'est venu, voici, il est au dehors ici.
Il n'a pas encore mis 2 mois.
Il a 1 mois.
Dame Kwadjo Yvette vient de consulter un médecin.
Bon, il m'a dit que c'est le palu. Il m'a prescrit des ordonnances à acheter.
Donc vous n'avez pas donné de médicaments?
Non. Pas de médicaments.
Donc vous allez tout payer, hein?
Bon, je vais voir à la maison, je vais aller voir monsieur, parce que je ne suis pas venu assez d'argent, non? Jusqu'à 2 ordonnances. Aucun médicament.
Une autre dame rencontrée cette fois à Yopougon, autre quartier d'Abidjan, dit ignorer l'existence de la mesure sur la gratuité des soins du paludisme simple.
Je suis allée plusieurs fois à l'hôpital et j'ai toujours payé les médicaments. Je ne sais pas pourquoi on dit que c'est gratuit. C'est écrit nulle part. Je ne sais pas si c'est écrit là-bas même. Même quand on devait prendre les médicaments à l'hôpital, c'était toujours payant.
Les médecins que nous avons approchés n'ont pas voulu réagir à ce débat, préférant nous renvoyer à leur hiérarchie. Docteur Antoine Tanoméa, directeur coordonnateur du Programme national de lutte contre le paludisme.
Il y a d'autres personnes qui l'appliquent et on reçoit des sons divers qui disent que soit j'ai payé ou je n'ai pas payé. Il y a une confusion. Le médicament du paludisme est gratuit. Ce que nous demandons aujourd'hui aussi à nos collègues, les prescripteurs, les médecins, les infirmiers, c'est qu'ils font maintenant des ordonnances différentes. Qu'ils puissent faire une ordonnance typiquement pour le traitement du paludisme simple et une autre ordonnance aussi pour autres affections qui sont liées au paludisme, pour ne pas qu'il y ait cette confusion.
On le voit donc, la gratuité du traitement du paludisme simple proclamée dans le discours officiel est loin d'être une réalité dans de nombreux centres de santé. Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Dans le sud-est du Nigeria, les magasins, écoles, bureaux sont restés fermés en mémoire du cinquantenaire de la déclaration de sécession du Biafra qui avait entraîné 3 ans d'une guerre civile meurtrière. 50 ans après, Onitsha, le grand centre commercial, a été une ville fantôme aujourd'hui et le Port Harcourt ressemblait à une ville morte. Idriss Fall a joint sur place le professeur Akio Akakuro de l'université de Port Harcourt.
Je suis à Porako, dans le centre-ville. L'ambiance que beaucoup de magasins sont fermés, dans le respect de mots d'ordre, de IPOD, les magasins ne sont pas ouverts. Les IPO et les autres sympathisants, c'est pas respectent l'ordre de fermer. Les gens sont d'accord avec cette revendication.
IPOB, c'est quoi?
Independent People of Biafra. Le peuple indépendant de Biafra disent qu'ils veulent l'autonomie, que le Biafra soit reconnu comme État indépendant. Selon eux, il y a l'injustice visible et voyant contre les Igbo. Ça fait partie d'une protestation générale. Peut-être que si la justice est respectée et les droits des Igbo sont respectés, peut-être les choses iront mieux.
Il y a 50 ans, l'indépendance du Biafra avait mené à une guerre civile très meurtrière. Est-ce qu'on se rappelle encore de Ojukwu?
Oui, Je crois que la génération qui prend la relève n'ont pas vécu la guerre, mais cette génération vit quand même la réalité d'aujourd'hui où il y a une injustice voyante. À partir de cette réalité actuelle, ils peuvent protester, ils peuvent revendiquer, mais je ne sais pas si une revendication de type autonomiste est la solution. Ça marque quand même quelque chose de dangereux auquel le gouvernement doit obligatoirement faire attention. Car les choses se sont modifiées, les enfants d'aujourd'hui sont devenus des adultes et il y a beaucoup de moyens disponibles. L'atmosphère et la culture de violence répandue partout dans le monde. On ne veut plus de ce genre de violence, mais le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Au moins, c'est ce que je souhaite. Le gouvernement les invite et de petites conversations avec cet activiste et voir ce qu'on pourrait faire dans le respect mutuel des gens.
Amnesty a déjà accusé les autorités d'avoir même tué des militants sans armes.
Je ne suis pas au courant de qui est tué. Normalement, lorsque les gens manifestent, que ce soit les gens de Biafra ou autres, il y a une espèce de culture du respect des gens qui caractérise certains membres de notre sécurité. Et ce n'est pas tous les membres de cette sécurité, mais il y a cette tendance à l'arrogance et à l'irrespect des citoyens. Et ça arrive dans nos pays, là, c'est pas nouveau, mais il faudra que cela cesse. Je suis certain qu'Amnesty International sait de quoi il parle.
C'était le professeur Acho Akakoro de l'Université de Port-Harcourt.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, un état des lieux des relations entre les États-Unis et l'Europe après la récente tournée du président américain. Berlin parle de partenariat amoindri tant au plan commercial que militaire. Donald Trump est d'avis que les Américains ne tirent pas totalement profit de ce partenariat. Les rapports américano-européens sont-ils à la croisée des chemins après des décennies d'entente? Quels sont d'après vous les avantages ou désavantages pour l'Afrique d'un possible éloignement américain des Européens? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Coup de projecteur sur la lutte contre Boko Haram. Voilà plus de deux ans qu'a débuté l'offensive militaire régionale contre l'organisation djihadiste nigériane. Au Cameroun voisin, à mesure que la sécurité s'améliore, le commerce reprend le long de la frontière. Mais les autorités mettent en garde. Boko Haram demeure une menace. Notre correspondant Moki Kinzeka s'est rendu à Achikia, dans le nord du Cameroun. Son reportage retranscrit ici par Morgane Guiriac.
Coton, sorgho, mil, sur le marché de Ngoulé, près d'Achigatia, des centaines d'acheteurs et de vendeurs se croisent sous le regard de la police et de quelques soldats qui gardent les lieux. Cette ville chevauche la frontière avec le Nigeria, officiellement rouverte depuis janvier. Et certaines marchandises sont donc destinées au Nigeria. Et inversement, les produits alimentaires et vêtements du Nigeria sont sur les étalages. Bouba Lamsi est un commerçant de 58 ans.
C'est une renaissance de ce département qui vit à près de 90% des échanges transfrontalières entre le Cameroun et le Nigeria.
Les affaires reprennent, un changement considérable par rapport à l'année dernière. Achigatia avait été déserté suite à une attaque de Boko Haram. Un poste de commandement militaire avait été visé. Les mosquées, les écoles et le marché avaient été brûlés. Mais depuis, le marché et l'école primaire ont été rénovés. Des centaines d'enfants sont de retour en classe. Boniface Bayaola, secrétaire d'État camerounais à l'enseignement secondaire, s'est rendu sur place.
Il y a une carence réelle d'enseignants. Nous sommes plutôt rassurés que la paix est revenue grâce à la forte implication du chef de l'État. J'ai constaté un sourire chez ses enfants et beaucoup d'engouement à vouloir mieux faire. Et c'est d'ailleurs pour ça que le chef de l'État a bien voulu donc faire cet accompagnement moral, matériel et financier à ses élèves.
Mais le gouverneur de la région du Grand Nord exige la vigilance. Midji Yawa Bakari rappelle que si Boko Haram a perdu sa puissance de feu, l'organisation terroriste a tout de même réussi à orchestrer une vingtaine d'attentats suicides dans la région depuis janvier. Autre source d'inquiétude, la sécurité alimentaire. El Hadj Toukou Rabo a dû suspendre ses affaires pendant 2 ans. Il vend du bétail aux commerçants nigérians, mais doit maintenant se rendre à l'intérieur du Cameroun pour trouver les animaux.
On peut dire que la sécurité est de retour, mais il y a un problème fondamental. Mais comment convaincre les paysans pour aller aux champs où les Boko Haram peuvent les attaquer à tout moment? Et de deux, tous les bœufs ont été volés, ce qui fait que la population vit dans la pauvreté et elle préfère aller là où elle peut trouver de quoi manger et de l'eau à boire.
Le gouvernement a commencé à distribuer des semences aux agriculteurs désireux de retourner dans leurs champs en assurant de les protéger contre Boko Haram. Mais certains résidents estiment que la zone est encore trop dangereuse pour rentrer chez eux.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Le ton est encore monté d'un cran ce mardi entre Angela Merkel et Donald Trump, qui a lancé une virulente charge contre l'Allemagne. Comme c'est souvent le cas, Donald Trump a choisi Twitter pour lancer la riposte. L'Allemagne paye bien moins qu'elle ne le devrait pour l'OTAN et le secteur militaire. Très mauvais pour les États-Unis et ça va changer, a-t-il lancé. Pour une analyse, Tatiana Mousseau a joint à Paris le politologue Emmanuel Dupuis.
Les Européens apparaissent désunis d'une certaine façon parce que chacun ne consacre pas la part qui pourtant depuis 2014 devrait être celle équilibrée de 2% des budgets de défense. Et c'est sans doute dans cet esprit qu'Angela Merkel l'a rappelé en mettant en avant le fait que la semaine dernière à Bruxelles, depuis la tenue du sommet du G7 qui lui a suivi à Termina, elle était de plus en plus convaincue que l'Europe devait s'assumer par elle-même, rappelant dans le même élan le fait que les Européens devaient sans doute moins être dépendants d'une présence militaire américaine qui certes reste réelle, mais qui sera de moins en moins engagée sur les nombreux dossiers sur lesquels les Européens agissent.
Une armée européenne indépendante, est-ce que c'est concrètement réalisable?
On n'a quasiment jamais évoqué, à part en 1954, l'idée d'une armée européenne. Par contre, on parle de convergence sur un certain nombre de dossiers, notamment pour étayer la présence de l'Union européenne. En fait, de 3000 hommes sont actuellement déployés dans 11 missions à travers le monde. C'est évidemment très loin des 122 000 casques bleus dont disposent les Nations Unies, mais c'est une réalité. Par contre, dès qu'il s'agit de lutter contre le terrorisme, là, la présence européenne est beaucoup plus convaincante et beaucoup plus structurée. Angela Merkel s'est un petit peu emportée suite au tweet que vous évoquiez de Donald Trump, qui avait d'une certaine façon une sorte de ton assez paternaliste. Elle a rappelé que l'Allemagne décidait de consacrer depuis octobre 2016 100 millions d'euros pour l'investissement dans une démarche globale dans la bande sahélo-saharienne. Faut-il le rappeler, l'Allemagne reste le deuxième contributeur de l'OTAN, la France est le troisième contributeur. Donc on voit bien que la présence allemande en matière de défense, et singulièrement de défense européenne, ne peut qu'aller de pair avec la montée en puissance d'une identité européenne de défense, et je crois que c'est ce dont il s'agit. À partir du moment où les États-Unis ont décidé d'être moins présents sur le continent européen.
Mais justement, est-ce que ça ne leur donne pas cette confiance suffisante pour dire nous, on met déjà assez de notre portefeuille, il faudrait que vous vous en fassiez plus?
C'est un coup double de Donald Trump. En appelant à ce qu'il y ait une plus forte participation des forces armées européennes à la stabilité mondiale, ça permet de faire en sorte que l'industrie d'armement américaine trouve ou conserve une clientèle européenne comme moyen-orientale. Deuxièmement, que le partage des coûts, quand il s'agit peut-être demain de combattre contre la Corée, les États-Unis ne veulent pas y aller seuls parce qu'ils n'ont pas la volonté politique, mais deuxièmement parce qu'ils ne peuvent plus eux-mêmes, malgré l'immensité de leur budget. Donc on voit bien que le concept du burden sharing était un peu en filigrane des propos qu'a tenu Donald Trump à l'occasion de l'inauguration du nouveau siège de l'OTAN. Il l'a dit d'une certaine façon avec brutalité, une tonalité toute particulière, mais il faut quand même rappeler que ses deux prédécesseurs ne cessaient de dire qu'il fallait que l'Union européenne, appartenant à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, participe aussi à cet effort de stabilité mondiale.
C'était le politologue français Emmanuel Dupuis, joint à Paris. Fin de cette édition, donc, merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, il y avait Lionel Gaïma, à la console Wojtek Zorniak, présentation Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité en continu. Au revoir.
Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone.
N'Djamena sur 93.1 FM. Clédou FM, Bamako. Raga FM, Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.